Oui, viens Seigneur Esprit Saint nous donner ce cœur tout brûlant dont parlait Thibaut tout à l'heure. Viens réchauffer nos cœurs et même les enflammer. Ce n'est pas toujours facile parce que nous sommes parfois comme du bois humide. Nous sommes humidifiés par nos péchés, humidifiés par notre manque de foi, humidifiés par notre manque d'ouverture. Viens Esprit Saint nous embraser, nous renouveler sans cesse, en particulier ce soir, par la puissance de ce feu éternel qui vient du Père, par le Fils. Du psaume 39. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre et de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Alors beaucoup parmi vous connaissent les psaumes et certains même les prient. Vous savez que la prière des psaumes vient nous rejoindre vraiment, puisque celui qui a écrit les psaumes, en particulier David, qui a écrit certains psaumes, pas tous, bien, ceux qui ont écrit les psaumes, ce sont des croyants qui ont fait une expérience de foi avec, comme nous, des moments de joie, des moments de difficulté, des moments où ils étaient dans le péché, comme David qui a commis l'adultère. Voilà, ils ont vécu tout ce que nous on peut vivre, pas exactement les mêmes événements, mais quand même des choses très similaires. Ils ont vécu toutes nos émotions, nos moments de détresse et nos moments d'espérance. Et ils nous donnent des paroles pour prier Dieu. C'est pour cela que cette prière des psaumes, l'Église la reprend et Jésus lui-même l'a priée, la faisant sienne, pour s'adresser à son Père. La prière des psaumes, c'est vraiment pour nous des mots qui nous sont donnés pour pouvoir exprimer ce que nous n'arrivons pas toujours à exprimer avec nos propres mots pour rejoindre la prière de l'Église, la prière de Jésus, la prière d'Israël. Alors le psaume dont j'ai lu une petite partie aujourd'hui, c'est un psaume en particulier d'action de grâce, mais aussi d'imploration, où le psalmiste partage son expérience. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Donc il fait mémoire du moment où il était dans une grande détresse et il a espéré le Seigneur. Quand on espère le Seigneur, on ouvre, on dit au Seigneur, voilà Seigneur, je suis complètement paumé, viens à mon aide, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et même parfois, on doute vraiment que le Seigneur entende notre parole ou que ça l'intéresse, notre petite prière, ou que même, pourquoi pas, qu'il existe ou qu'il a des oreilles. Voilà, donc le psalmiste pose cet acte d'espérance où il surmonte toutes ses réticences à croire, et on a tous des réticences à croire vraiment parfois. Il surmonte ses réticences pour espérer dans le Seigneur. Et il dit un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Alors vous voyez, cette parole elle est un petit peu amusante parce que si on y réfléchit, Dieu étant esprit, il n'a pas de corps, donc il ne peut pas se pencher. Et donc le psalmiste, en quelque sorte, projette sur Dieu une forme humaine. Il s'est penché sur moi, comme moi je me penche vers quelqu'un qui me parle, pour mieux l'entendre. Sauf que quelques centaines d'années après ce psaume, Dieu s'est vraiment incarné en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ qui a pris notre nature humaine, le Fils de Dieu qui a pris notre nature humaine, là Dieu s'est vraiment penché pour aller vers les malades, pour les écouter, pour les guérir. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Quand on fait cette expérience, et ça c'est vraiment l'expérience de la foi, que l'on s'adresse à Dieu et il nous écoute. Celui qui fait cette expérience-là, eh bien il fait une expérience merveilleuse et bouleversante parce qu'il est en relation avec Dieu. Dieu n'est plus simplement une réalité abstraite, et il y a des chrétiens qui vont tous les dimanches à la messe ou au culte pour les protestants, et qui pourtant ont une conception de Dieu très abstraite. Voilà, Dieu, il est très loin. Je prie évidemment parce que je fais un acte cultuel ou religieux, mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'il agit dans ma vie. Je le fais parce que je sens que je dois le faire, mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'il agit dans ma vie. Et quand on découvre que Dieu agit dans notre vie, qu'il entend notre prière, nos pensées, il les entend, parce que parfois c'est même lui qui suscite notre prière, alors c'est une expérience fabuleuse. On se dit, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas perdu dans l'univers, je ne suis pas simplement entre le néant d'avant de mon existence et le néant d'après ma mort où je n'existerai plus, je ne suis pas entre deux néants. Je suis soutenu par la main de Dieu, c'est très différent. Et il dit, c'est pencher vers moi, se pencher, c'est une attitude de compassion. Dieu se penche vers nous et s'est tellement penché que Jésus-Christ s'est incarné. Et non seulement il s'est incarné, mais il est mort pour nous, comme le disait tout à l'heure Thibault, il est mort pour nous sur la croix. Il s'est tellement penché qu'il est mort sur la croix pour nous, pour entendre mon cri. C'est intéressant, le psalmiste n'a pas formulé une prière particulière, il a dit « j'ai plutôt crié vers Dieu ». Et c'est vrai que quand on est, comme on va le voir dans la suite du psaume, quand on est dans le gouffre, dans la détresse, on n'a pas envie de faire des belles prières, on n'a même plus la force de le faire. On n'a plus qu'un cri vers Dieu. D'ailleurs, saint Paul dit dans l'Épître aux Romains que l'Esprit Saint vient à notre secours dans notre faiblesse et il crie en nous par des cris ineffables pour prier en nous le Père. Donc l'Esprit Saint lui-même crie par des cris ineffables en nous dans notre prière. Il ne faut pas oublier que quand nous prions Dieu, Dieu lui-même vient prier en nous et vient appuyer notre prière. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Cette semaine, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles étaient dans le gouffre, soit pour elles-mêmes, soit parce qu'elles ont des personnes proches qui sont dans des situations très difficiles et c'est comme si elles étaient elles-mêmes. Parfois, dans notre vie, on peut être dans le gouffre. Moi, j'ai passé de nombreuses années dans le gouffre. Le Seigneur m'a fait passer de nombreuses années au fond d'un grand gouffre très obscur pour me faire comprendre ce que c'est qu'être dans le gouffre, pour pouvoir ensuite prier pour ceux qui sont dans ce gouffre. Et quand on est dans le gouffre, eh bien, on ne sait pas très bien comment on peut en sortir. On ne voit pas de voie de sortie. La seule chose qu'on a, c'est l'espérance. Et on ne voit pas vraiment comment les choses peuvent s'arranger. Voilà, c'est ça l'expérience du gouffre. On est entouré de ténèbres. Il n'y a pas de solution humaine. Et on est là simplement à espérer Dieu en espérant que demain, ça ira mieux qu'aujourd'hui. C'est ça le gouffre. Il n'y a pas de chemin qui remonte. Sinon, ce n'est pas le gouffre, c'est la vallée. La vallée, on peut remonter, mais le gouffre, c'est un gouffre. De l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. La boue, ça peut être aussi la boue de mon péché. Je suis empêtré par mon péché, par mes addictions, par je vois que j'essaie d'avancer, j'y arrive jamais, je suis toujours le même, j'en ai ras-le-bol. Je suis pris dans cette boue infâme de mon péché. Eh bien, le Seigneur, je ne sais pas comment il a fait, le psalmiste le dit, il m'a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. Comment il a fait, j'en sais rien. Comment Dieu, moi, m'a sorti de mon gouffre, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je peux dire que ben, j'en suis sorti. Puis à tout moment, il y a des petits gouffres qui arrivent. Puis à chaque fois, le Seigneur m'en fait ressortir. Il me fait prendre pied sur le roc. C'est quoi le roc? Le roc, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas d'autre roc que Dieu lui-même. C'est sa parole. Comme Jésus le dit dans l'évangile de Matthieu, où il parle de celui qui a bâti sa maison sur le roc et de celui qui a bâti sa maison sur le sable. Celui qui a bâti sa maison sur le roc, c'est celui qui a bâti sa vie sur la parole de Jésus. Il peut y avoir des tempêtes, quoi que ce soit, il va tenir. Celui qui met sa maison sur le sable, ça s'écroule. Dès que dans sa vie, les choses s'écroulent, dès qu'il perd son boulot, etc., etc., tout s'écroule, il est mort, il n'y a plus rien, il est vidé, puisqu'il s'appuie uniquement sur des réalités terrestres, et celles-ci peuvent disparaître d'un coup. Mais celui qui s'appuie sur Dieu, aucune réalité terrestre ne peut totalement le détruire, il a toujours un pied sur le roc, même s'il souffre aussi, évidemment. Et c'est pour ça ensuite que le psalmiste peut dire « Il a raffermi mes pas », c'est-à-dire que maintenant, je peux continuer à avancer. Quand on est dans le gouffre, on n'avance plus, la vie s'est terminée. Quand on sort du gouffre, eh bien, à nouveau, on peut avoir des projets dans sa vie, on peut avancer, il y a une espérance, on a de la joie avec les autres, etc. Quand on est dans le gouffre, tout cela, souvent, a disparu. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. C'est là où nous sommes invités, et David l'a fait, à louer le Seigneur. Même parfois dans le gouffre, nous sommes invités à louer le Seigneur. Il y a un livre qui est écrit par un protestant que j'ai lu au tout début de mon chemin dans la vie charismatique, qui s'appelle « La puissance de la louange ». C'est écrit il y a longtemps. Alors Myrline Carotter, ça avait fait un tabac il y a plusieurs dizaines d'années. Il donnait plein d'exemples où quelqu'un loue le Seigneur et tout de suite ça va mieux. Bon, alors, chez lui, c'est un peu automatique. C'est pas toujours aussi automatique que ça. C'est parce que je loue le Seigneur qu'il y a 100 000 euros qui tombent sur mon compte en banque. Ça serait un petit peu simple D'accord ? Mais n'empêche que je loue le Seigneur, ça va quand même ouvrir des choses, parce que je pose un acte de foi et même de louange. Et moi, ça m'avait fasciné, cette histoire-là. Et c'est par là qu'a commencé finalement mon chemin dans la vie charismatique qui m'a fait aller à ce groupe de prière où s'est passé ce qui s'est passé. Et le Seigneur nous invite, quand on a des, certains d'entre vous ont fait cette expérience, et bien continuer aujourd'hui à louer le Seigneur, à le bénir pour toutes choses. Notre vie doit être une louange du Seigneur. Beaucoup d'hommes verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Vous voyez, le psalmiste ne pense pas qu'à sa petite vie à lui. Il se dit, bien, d'autres personnes vont faire la même expérience que moi. Si je la partage, si maintenant je loue le Seigneur, c'est que je sais qu'il y en a d'autres qui sont dans le gouffre, ils vont s'en sortir par la grâce du Seigneur. Et un jour, ils loueront le Seigneur comme moi et ils partageront cette expérience à d'autres personnes comme moi je le fais dans ce psaume. Alors, la semaine dernière, nous avions Pierre, qui était venu de Lyon, qui est chirurgien, qui était guéri de sa main, instantanément à la prière des malades, et qui a pu recommencer à opérer, alors qu'il ne pouvait plus depuis 2 ans. Donc, nous avions un témoignage très fort. Cette semaine, je vais me contenter de lire des témoignages que j'ai reçus, ou que des personnes sont venues donner au groupe d'écoute, donc je vais vous en donner plusieurs, mais plus courts. Alors, bonjour, je m'appelle Reine-Claude, j'habite à l'île de la Réunion, j'étais de passage à Paris. Je suis venu à la prière des malades un jeudi soir, j'avais un kyste au cerveau. Pendant la prière, j'ai ressenti un frisson dans tout mon corps, et il y a une parole de connaissance qui annonçait la guérison de quelqu'un au niveau de son cerveau. Mais je ne savais pas que c'était pour moi. Après un scanner, donc quelques jours après, le médecin m'a confirmé qu'il n'y a plus rien dans mon cerveau. Tout de suite, j'ai pensé au message pendant la prière. Merci, Reine-Claude, pour ce témoignage. Alors, un témoignage de Jean-Bernard. Alors, jeudi 4 juin, je me rends pour la 4e ou 5e fois à la prière des malades, avec une intention de prière pour plusieurs malades qui me sont proches. Je sais que parmi vous, il y en a qui viennent pas simplement prier pour eux-mêmes, mais pour d'autres, pour obtenir des grâces pour les autres, mais le Seigneur pense aussi à nous, même si on ne prie pas pour nous-mêmes, comme Jean-Bernard en a fait l'expérience. Parmi les nombreuses guérisons qui sont annoncées, une annonce que le Seigneur Jésus guérit une personne qui a la nuque raide. J'entends, j'écoute cette parole, mais je n'y attache pas d'importance particulière, surtout que je ne me sens pas concerné parce que je ne fais pas de lien avec ma propre nuque. Et pourtant, j'ai bien la nuque raide. À la suite d'un accident qui remonte à une 20aine d'années, il m'était difficile, quasiment impossible, de tourner la tête plus qu'un petit peu, que ce soit vers la droite ou vers la gauche. À l'époque, les quelques séances de kiné que j'avais pratiquées étaient restées sans effet. Je m'étais donc résigné, habitué à faire avec, et finalement, avec le temps, à oublier cette contrariété. Mais le Seigneur, dans sa bonté et miséricorde infinie, m'a accordé sa grâce. Il m'a guéri sans même que je lui ai demandé. Entre la parole de connaissance, guérison de la nuque raide et la fin de la célébration, j'ai pris conscience que je pouvais tourner ma tête normalement. C'est alors que je me suis remémoré cette parole et que j'ai compris que Jésus venait de me guérir et à travers ce signe de me dire qu'il m'aimait, que je comptais pour lui-même. Quel signe délicat de la part de Jésus, cette guérison inattendue. Car le Seigneur me connaît, ici est pris, par ce signe, ce clin d'Dieu, il y a un petit jeu de mots, avec beaucoup de douceur. Oui, le Seigneur est doux de cœur, tout autant que ma nuque, c'est ma foi sans doute un peu raide, que le Seigneur a voulu guérir. Merci Jésus. Jean-Bernard, voilà un homme plein d'humilité, que le Seigneur a guéri de sa nuque raide. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur parle à son peuple et que le Seigneur ne veut pas l'entendre, il dit « ce peuple a la nuque raide ». C'est une des expressions qui est utilisée. Bien, Jean-Bernard reconnaissait qu'il avait la nuque raide, mais maintenant le Seigneur a adouci sa nuque et son cœur. Alors d'autres témoignages qui ont été reçus par les personnes qui sont venues donner leur témoignage au groupe d'écoute. Donc Jocelyne, elle avait depuis des années des problèmes de constipation et suite à une parole de connaissance, ceux-ci se sont fortement estompés. Suite à une parole de connaissance, Bernard a reçu une force de douceur à son travail pour surmonter une situation où il était injustement accusé. Grâce à cela, la situation s'est apaisée et il a été félicité par sa patronne. Lucita souffrait d'attaques démoniaques, donc il y a des moments où elle vivait des choses extrêmement dures. Elle est venue à la prière des malades un jeudi, et elle en est sortie complètement délivrée, ce n'est plus jamais revenu. Il faut quand même qu'elle continue à prier pour rester dans la main du Seigneur. Jeanne, elle avait aussi un problème un peu particulier, probablement d'origine démoniaque. Elle souffrait tous les jours vers 17h de douleurs dans tout son corps, accompagnée de frissons, tous les jours à 17h. Ça a duré un an. Elle est venue à la prière des malades après Pâques, et depuis, son état s'est rapidement amélioré jusqu'à ne plus ressentir aucune douleur. Rodrigue est venu prier pour son fils à la prière des malades. Une parole a annoncé la guérison d'un enfant dans ses oreilles. Donc son fils, qui a 8 ans, avait des otites à répétition depuis 5 ans. On devait l'opérer à cause de cela. Après cette parole, et c'était vérifié dans le temps, eh bien, l'ORL a pu vérifier que son fils était guéri, donc l'opération a évidemment été annulée. Merci Seigneur. Marie-Élisabeth souffrait d'un déplacement de vertèbre. Lors d'une prière des malades, où une parole de connaissance a annoncé que le Seigneur réparait un dos comme un mécano, elle a senti un craquement dans son dos, donc pendant la prière, et la bosse liée, donc elle avait une petite bosse, liée au déplacement de ses vertèbres a immédiatement disparu, et depuis, elle ne souffre plus de son dos. Le Seigneur est un super kiné. Merci Seigneur Jésus. Voilà, puis Claudine est venue à la prière des malades en 2003. Il y a une parole de connaissance affirmant que le Seigneur venait en aide à un foyer où il y a de fortes tensions et où le mari était malade. Lors de cette parole, elle a ressenti une chaleur, ce qui fait qu'elle s'est sentie concernée. Et effectivement, après cette parole, les disputes, les tensions ont disparu dans son foyer et son mari était guéri suite à un traitement médical. Voilà, merci Seigneur pour toutes les grâces que tu nous accordes. Merci pour celles que tu vas Voilà, les petites grâces, les grandes grâces, mais à chacune de ces grâces, tu nous montres que tu es présent, tu nous donnes un signe pour nous montrer que tu es là. Et souvent, ces grâces, petites ou grandes, que les gens reçoivent, le plus important, ce n'est pas seulement d'être guéri, c'est de manifester que Jésus est à côté de moi, qu'il m'aime et qu'il me connaît. C'est encore plus important que la guérison elle-même. Alors le Seigneur va maintenant venir dans le Saint-Sacrement.